Oscar Miloche, Contes et Fabliaux de la vieille Lituanie. Le tailleur et le cordonnier. Il était une fois deux frères. L'un était cordonnier, l'autre tailleur. Comme ils s'entendaient à merveille, ils firent longtemps deux parts égales de leurs gains. Mais ceux-ci, un beau jour, ne suffirent plus à leurs besoins, ce qui les détermina à aller chacun de son côté chercher fortune. Ils quittent donc leur pénate et font route ensemble jusqu'au premier carrefour. « Le moment est venu de nous séparer, dit le tailleur. Mais dans 10 ans, jour pour jour, nous nous retrouverons ici pour partager l'argent que nous aurons gagné. » Ils se donnent la collade et le tailleur prend à droite et le cordonnier à gauche. Le chevalier de l'aiguille et des ciseaux rencontra le troisième jour une rivière qu'il longea jusqu'à ce qu'il fût parvenu à la brune au bord d'un grand lac. Là, il trouva 3 barques renversées. « Voilà un excellent abri pour la nuit, se dit-il. » Et il s'alla coucher sous l'un des canaux. Sur le minuit, un bruit le réveille, qu'il prend tout d'abord pour un grand vol de mouettes. Il lève la tête, mais au lieu de charmants oiseaux blancs, il aperçoit, à la clarté de la lune, 3 horribles sorcières qui, sur leur balai sifflant, volent de son côté. Bientôt, elles se posent sur la rive, viennent s'asseoir sur les 3 barques et échange les singuliers propos que voici. Toi, ma sœur, par le maudit, qu'est-ce que tu dis? Et toi, ma sœur, par mot fait, qu'est-ce que tu fais? Par le maudit, voilà ce que je dis. Il était une fois un père qui avait 2 fils. Il mourut avant d'avoir eu le temps de dire où était caché son argent. Et les 2 frères, comme 4, de se quereller, de se battre. « C'est toi qui as le pognon, tu me diras pas non. C'est toi qui as le pognon, c'est toi, salaud, qui l'a. Pan, pan, voilà pour toi. » »« Et où qu'il est, le magot ?» demandent les 2 autres fées carabosse. Sous la porte et le poteau, qui gratte, trouve aussitôt. « Et moi, par mot fait, v'là ce que j'ai fait, nazie la 3e sorcière. J'ai mis à sec tout un pays. » Adieu, fleuve, étang et puits. 10 gros d'argent, mes sœurs, 10 gros pour un petit, tout petit bro. Et que faut-il faire pour que l'eau revienne? Interrogent les 2 autres. À la lisière du bois joli, je sais une pierre bien polie. Qu'on la retourne simplement, et l'eau revient incontinent. Enfin, les 2 intrigantes interrogent l'interrogant. Celle-ci répond. À la cour, cela ne va pas. La fille du roi est bien bas. Et qu'a-t-elle donc? Vite, qu'a-t-elle? Un gros crapaud dans sa ruelle, un gros crapaud qui boit son sang. Ah, il va la saigner à blanc. Faudrait le tuer, sécher, moudre, faire boire à l'enfant la poudre. Malgré sa frayeur, le tailleur tendait l'oreille et notait le moindre mot dans sa mémoire. Le coq chanta et les 3 horreurs s'envolèrent dans la lune. Notre héros quitte son abri. Après avoir marché tout le jour, il arrive au crépuscule dans un village. Là, une commère lui apprend que 2 frères, ses voisins, se sont chamaillés de l'aube au coucher du soleil. Il pense aussitôt au récit de la 1ère sorcière. Et va trouver les 2 disputailleurs. Paraît qu'il y a bisbille ici. À quel propos? Notre père, Dieu et son âme, voilà-t-il pas qu'il s'en est allé manger le chou par la racine et nous ne savons pas où est le magot? Laissez-moi passer la nuit chez vous. Demain, je vous dirai où il l'a caché. Dis-le-nous tout de suite et nous t'en donnons la moitié. Je n'en ai pas besoin. L'argent ne fait pas le bonheur. Je ne vous demande qu'un bon bol de soupe une croûte et le coucher. Vous aurez votre héritage demain. » Au premier feu du jour, le voyageur conduit les deux frères ennemis, chacun armé d'une pelle, à la porte de la ferme et leur montre la cachette. Une demi-heure plus tard, on déterre une marmite pleine d'or. Le tailleur festoya trois jours entiers avec ses hôtes, s'en donnant à cœur joie, car il était fort gourmand. Après quoi, il les quitta sans accepter un rouge liard. Peu après, nous le retrouvons dans un village en conversation avec des gens qu'il prie de lui donner à boire. « Nous voudrions bien vous offrir de la bière, mais voilà, nous n'avons pas de quoi en acheter. »« Eh, braves gens, quel besoin ai-je de bière? J'aime 100 fois mieux un bon verre d'eau bien fraîche. »« Ah, voilà ce que c'est que de venir de loin. De la bière, on nous en envoie encore de temps à autre. Mais pour ce qui est de l'eau, c'est une autre paire de manches. Rivière, étang, puits, tout est desséché, que c'est un vrai châtiment du ciel. » Tiens, tiens, fit le tailleur, et il se rappela l'histoire de la seconde sorcière. Puis tout, avec l'aide de Dieu, je me fais fort, tel que vous me voyez, de noyer vos campagnes demain. Mais si vous êtes bien gentil, je ne ramènerai qu'autant qu'il en faut pour vous désaltérer, vous, vos bêtes et vos chats. » Les bons villageois portent subrepticement leur index à leur front, mais après réflexion, ils conduisent tout de même notre sourcier au château. Le seigneur l'interroge, s'aperçoit qu'il a affaire à un homme des plus sensés et recommande à ses gens d'exécuter fidèlement tous les ordres qu'ils en recevront. Le voyageur arme aussitôt de perche une 20aine de solides gaillards qu'il conduit à la lisière du bois voisin. On soulève une énorme pierre bien lisse et à demi enfoncée dans le sol. L'eau jaillit un continent du trou et le bruit se répand en même temps dans le village que fleuve, lac et fontaine ont repris leur travail nourricier, interrompu depuis des jours et des jours. Le bon seigneur et ses villageois se confondirent en actions de grâce et voulurent couvrir d'or notre tailleur. Mais celui-ci fournit une nouvelle preuve de son désintéressement en n'acceptant aucun cadeau. Il se contenta de présider aux réjouissances qui réunirent tous les habitants de la contrée. Ensuite de quoi, il tira sa révérence à noble et vilain et s'éloigna comme il était venu. Un soir, il arrive dans une grande ville et demande à l'aubergiste comment vont les affaires. « Pas mal, merci. Le grand-duc, notre maître, a marié il y a quelque temps un de ses frères et ce sont là des choses qui font marcher le commerce. » Mais que le pauvre homme avait donc l'air triste. Ah, c'est bien la peine de naître sous des lambris dorés, comme dit l'autre, et de commander à des milliers et des milliers de gens pour se promener dans la vie avec un visage long d'une aune. Ah, bah, qu'est-ce qu'il a donc, votre souverain? Ne m'en parlez pas, c'est une sale histoire. Pareil qu'un crapaud, aussi gros qu'un homme, sort tous les soirs de la muraille pour venir sucer les veines de la fille unique du prince. S'il n'y a que ça pour tourmenter votre portre sceptre, il sera délivré de son souci pas plus tard que demain. Et par qui donc, bonté divine? Les médecins n'y entendent de goutte. Il y en a un qui est venu dernièrement de Bâle et qui, avant de se rendre en grande Tartarie, s'est arrêté chez nous. C'est à ce qu'on raconte quelqu'un qui se croit plus grand que Cels, et ça doit être vrai, parce qu'il était si drôlement accoutré que tous les chiens de la ville lui faisaient escorte. Attendez voir un peu. Para, para, Enfin, peu importe. Il a flanqué au crapaud un grand coup de son épée azote, comme il l'appelait, mais l'autre a ri et il lui a montré son... Et vous croyez que vous, vous réussirez là où tant de bonnets rouges ont perdu leur latin? Pour sûr. Et je veux être pendu si je mens. La nouvelle de l'arrivée du docteur Miracle parcourt la capitale comme une traînée de poudre. Le rival de Bombast d'Hohenheim est mandé au château. Après un court entretien, le grand-duc le conduit lui-même à la chambre de la malade. « Si vous sauvez mon enfant, l'héritière de ma couronne, je vous donne la moitié de mes états. » C'est pas de refus, mais pour commencer, il me faudrait une chambre pour moi seule et 8 jours de tranquillité complète et de bonne boustifaille. Vous aurez tout cela et bien autre chose encore. La princesse est belle comme le jour. Par contenance, le thérapeute lui tâte le pouls. Mais ça ira quand même. La semaine prochaine, monseigneur, elle sera hors de danger. C'est idiot possible, soupire le duc. C'est comme j'ai l'honneur de le dire à votre Altesse Sérénissime. Voilà donc notre tailleur sourcier et guérisseur installé dans une belle chambre devant un de ces plats de Kaldonaï lituanien, miroitant de graisse et fleuri de fines épices, qui, dans la liste gastronomique, remporte le prix sur toute combinaison connue de hachis et de pâtes. De temps en temps, soucieux de laisser un répit à ses mâchoires, il étend la main vers une corne de bœuf qu'il remplit jusqu'au bord d'un hydromel blond ou bourdonne de somnolents étés de l'autre siècle. Un splendide feu de bois chante et danse dans la cheminée de chêne surmontée des armoiries apocalyptiques du Grand-Duché. Mais tout à coup, la tapisserie du mur opposé se gonfle au souffle muet d'un étrange influx. Et il en sort une effroyable tête de crapaud plus vaste qu'un potiron, plus pustuleuse qu'une voie lactée, et toute prête à projeter sur notre gourmet une langue de 10 aunes chargée de glu noir et luisante. Le dîneur se lève, saisit une paire de lourdes pincettes de bronze et en assène un coup terrible à la batracienne apparition. Le tourmenteur de jeune fille s'abat flasquement sur le sol. Les mules de Galien le découpent en tout petits morceaux frétillants et sautillants qu'il jette dans une vaste poêle avant de les mettre sur le feu. Quand le cadavre est carbonisé, il le réduit en poudre, l'arrose copieusement de sucre de cloporte, le larde délicatement d'une once et demie de bézoard et court, incontinent, verser le tout dans le bouillon de la princesse. Dès le lendemain, celle-ci repoussait avec dédain l'urinal qu'on lui présentait au bord du lit pour aller s'asseoir, pleine de désinvolte, sur la chaise armoriée et percée qui décorait un coin de son alcôve. 3 jours plus tard, les duègnes, alarmés, la voient par une fenêtre minauder au bras de son jeune sauveur dans une allée du parc grand-ducal. Elle court avertir le souverain. Celui-ci s'arme d'une longue vue et découvre le couple sur un banc de la partie la plus retirée des jardins. « Regagnez vos appartements, mesdames, » dit le repère aux vieilles, qui se voulaient déjà saisir de sa lorgnette. « Regagnez vos appartements et vous y tenez couette. » Malgré son jeune âge, Madame Ducal s'entend beaucoup mieux que vous autres à garder en toute occasion son rang. « La gaillarde, » marmotta-t-il quand il fut seul. Elle tient évidemment de son père. « Et quelque peu aussi de feu sa mère, » ajouta-t-il avec un soupir. Puis, après un instant de réflexion. J'ai promis aux disciples d'Hippocrate la moitié de mes états. Mais après ce qui vient de se passer, je ferai sagement, je pense, de lui donner aussi la princesse, et tout entière, du moins je l'espère pour lui. Au surplus, n'est-il pas mieux informé que quiconque à ce sujet ? Le tailleur de Miroy, époux d'une princesse légitime et intégrale, gouverna ses peuples et administra son royaume avec un sens de la mesure, une dignité et une habileté qui rendaient pour le moins superflu la longue généalogie qu'on lui forgea de toutes pièces et qui le faisait remonter à la vache Io en passant par Géryon aux trois têtes. Vers la fin de la neuvième année, cependant, qui se trouvait être la dixième depuis sa séparation d'avec son frère, il tomba dans une noire rêverie qui lui représentait le carrefour où Tailleur et Savetier avaient échangé leurs adieux et leurs promesses. Quelques jours avant le rendez-vous, il se mit donc en route vers ce site mélancolique et si vivant dans sa mémoire, suivi de deux compagnies de soldats, magnifiquement enharnachés et empanachés. À la vue des peupliers carolines qui ombrageaient le lieu, il sentit une larme rouler sur sa joue. Et, se tournant vers son escorte, commanda en soupirant « Halte, par file à droite, repos !» Le cordonnier se dessina bientôt dans les brumes du matin. Il portait un vague vestige de culotte, mais avançait nu-pied sur la rosée. « Te voilà donc, petit Pierre, te voilà donc, mon petitot, mon frérot !» Et, se tournant vers ses troupes, « En avant, marche, halte par flanc gauche, portée, arme. »« Ah, bonne Vierge, depuis longtemps qu'on ne s'est pas vu. Alors ça va? Ça boulotte ?»« Ça pourrait aller mieux, le cuir est cher et le client lésineux. Mais en se serrant le ventre, on ira bien jusqu'à l'heure marquée par le destin, comme dit l'autre. Et toi, gros Jean ? Mais dis-moi donc, depuis quand que t'es caporal ?» Caporal ? Tu veux dire prince souverain ? Tu verras mon palais, ma cour, mince de dorure et de chamarure. Allons, hop, en croupe. Demain matin, je te bombarde, par édit royal, souverain de la moitié de mes états. Dis-moi un peu d'abord par quelle voie tu es parvenu à tous ces honneurs. Son Altesse raconte par le menu tout ce qui lui est arrivé depuis la rencontre des trois sorcières. Être duc, simple duc comme mon frère, jamais, au grand jamais, se dit le savetier, que le démon de l'envie venait de mordre au foie. J'irai moi aussi coucher sous la barque, et je veux qu'on m'écartèle si je ne deviens pas empereur, rien que pour faire enrager monsieur mon frère. « Voyons, Pierrot, qu'est-ce qu'il y a ? Tu viens ou tu ne viens pas ?»« Toute réflexion faite, je renonce aux grandeurs. Savetier, fais ton métier. Et puis, je suis républicain, moi, mort au tyran. » Le tailleur-duc n'en croit d'abord pas ses oreilles. Puis, comprenant tout à coup ce qui se passe, il pique des deux, tout rouge de dépit, et s'éloigne dans un nuage de poussière. Son frère tend le poing à la troupe qui s'efface à l'horizon et fait hâte vers la rive enchantée où l'avait déjà conduit plus d'une fois sa vie vagabonde. Il se cache sous l'une des barques et joue à pile ou face la couronne du grand Mogol et celle du grand Turc. À minuit, les sorcières apparaissent. Par le maudit, « Qu'est-ce que tu dis ? Et par mot fait, qu'est-ce que tu fais ?» etc. Les deux autres de se lamenter. Rien à dire, rien à faire. Pas de peste, pas de guerre. Le monde a le vent en poupe. Las, ni choléra, ni croup, complot, attentat, bernique. Empires et républiques ont appris à pas s'en faire. Ah, ma sœur, quelle misère, et toutes les trois en chœur. Sont-ils donc devenus fous ou se foutent-ils de nous? Ils mangent, vont à la messe. Ah, mes sœurs, quelle détresse! Il y a quelque chose, entendez-vous, là-dessous, là-dessous, là-dessous. Et tout en bissant ce sinistre refrain, les trois vieilles soulèvent chacune sa barque et découvrent le malheureux savetier empereur. Elles le déchirent à grands coups d'ongles et de griffes, le dévorent sur place et vont le digérer paisiblement sur la face inconnue de la lune.